Le journal. Bonjour Christophe Beck.
Bonjour, bonjour à tous. Dédouanée par l'IGPN, elle est pointée du doigt par la classe politique et les associations. La police est sur la sellette après la découverte du corps de Steve Canisso dans la Loire. L'intervention des forces de l'ordre était-elle adaptée à la situation ? Nous poserons la question à notre invité, le patron du syndicat national des commissaires de la police nationale. Mais nous entendrons auparavant le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'exprime pour la première fois sur cette affaire. Le risque incendie au plus haut niveau. Dans le sud-est de la France, 488 hectares ont brûlé à Générac, dans le Gard. Le feu est fixé, mais pas totalement éteint. Nous irons sur place. À Air France KLM, c'est un oui massif des pilotes SNPL au référendum sur le développement de Transavia. Maxime Deps, que signifie ce résultat ?
Eh bien, qu'Air France va pouvoir, théoriquement, grâce à l'accord trouvé avec les pilotes, ouvrir davantage de bases low cost en France, mieux concurrencer EasyJet, par exemple. On verra tout de même que tout le monde n'est pas tellement content de cet accord.
On parlera aussi du projet de congé professionnel pour les aidants familiaux, de cette polémique au Pays Basque espagnol à propos de l'accueil triomphal réservé aux terroristes de l'ETA. Et pour finir, sur la belle histoire de cette chevalière en or rendue à son propriétaire à Saint-Malo. La météo, Sébastien Léas, quelques gouttes au nord, du soleil au sud.
Oui, le ciel va s'éclaircir de plus en plus cet après-midi et le soleil va être plus généreux, notamment sur une large moitié sud. Quelques averses traînent encore au nord de la Seine. Après-midi, plus nuageux en revanche en Bretagne, avec également des averses. Et puis ces nuages vont également déborder vers le Cotentin. Les températures seront, elles, comprises entre 20 et 28 degrés cet après-midi, mais on ira jusqu'à 35 degrés autour de la Méditerranée.
Dans la prévision complète à la fin de ce journal. France Inter. Sa parole était attendue. Après celle du Premier ministre Édouard Philippe, hier après-midi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est exprimé ce matin sur les événements nantais. Même si le rapport de l'IGPN écarte tout lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la disparition de Steve, lors de cette nuit de fête de la musique à Nantes, Christophe Castaner reconnaît que des questions restent en suspens et qu'il faudra y répondre. On écoute le ministre de l'Intérieur.
Il y a un certain nombre de sujets, des questions qui sont totalement ouvertes sur la préparation de cet événement, de ces 9 sound systems qui ont été organisés, mais aussi encore des questionnements sur la gestion de l'intervention de la police. Et donc on a souhaité compléter cela par un rapport de l'inspection générale de l'administration. Vous savez qu'on a eu à gérer une crise de l'ordre public particulièrement majeure. Plus de 50 000 manifestations ont eu lieu ces 8 derniers mois. Très souvent avec des violences immédiates. Nous avons eu à gérer une crise extrêmement difficile, mais nous avons souhaité aussi que le schéma national d'ordre public soit remis à plat, parce qu'on ne gère plus l'ordre public aujourd'hui comme on le gère depuis une dizaine d'années. Les violences deviennent systématiques, les manifestations ne sont quasiment plus jamais déclarées. Les moyens sont-ils adaptés ? J'ai ouvert ce débat. Ce schéma sera présenté avec ses évolutions matérielles de doctrine. Tout est ouvert à la discussion à l'automne pour intégrer aussi le livre blanc de la sécurité sur lequel le Premier ministre nous a demandé de plancher.
Voilà, une enquête administrative devra compléter celle de l'inspection générale de la police nationale. Christophe Castaner vient d'y faire allusion. C'est le Premier ministre qui annonçait l'ouverture de cette autre enquête hier après-midi. De quoi s'agit-il exactement ? Jean-Jérôme Bertolus nous éclaire sur l'objet de cette enquête administrative.
Pour Édouard Philippe, l'enquête de l'IGA, l'inspection générale de l'administration, doit permettre d'aller plus loin que les investigations menées par la police des polices. L'inspection générale de l'administration est rattachée au ministère de l'Intérieur. C'est un grand corps de l'État, un corps d'une soixantaine d'inspecteurs dont la charte de déontologie souligne l'indépendance. Ils ont le pouvoir d'enquêter sur tous les rouages du ministère, les politiques publiques mises en place, mais aussi l'ensemble du personnel de la police au préfet. L'IGA va donc se pencher sur les consignes données par le préfet de Loire-Atlantique aux forces de police le 21 juin dernier. Les rapports de l'IGA sont en général suivis des faits. Son récent rapport sur les mineurs non accompagnés avait abouti à la création d'un fichier biométrique. Son existence vient d'être validée par le Conseil constitutionnel.
La question ce midi est agitée par la classe politique, les associations et les proches de Steve à Nantes. La stratégie policière adoptée cette nuit était-elle appropriée à la situation de cette fête de la musique ? Invité du journal de 13h sur France Inter, le commissaire David Lebars. Bonjour commissaire.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Alors peut-être un mot pour commencer sur ce rapport de l'IGPN. Peut-on dire aussi clairement qu'il n'y a aucun lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la disparition de Steve ?
Alors moi je l'ai pas interprété comme cela, c'est en l'état des éléments à la connaissance de l'IGPN. L'IGPN ne dit qu'une chose, elle ne dit qu'elle ne trouve pas de lien direct entre la mort du jeune Steve et l'intervention de police. ça n'exclut pas pour autant qu'il puisse y avoir d'autres éléments qui puissent ou pas, par la suite, établir qu'il puisse y en avoir un. Je vous en donne deux ou trois à titre d'exemple. Et ça, c'est l'enquête judiciaire qui le dira. Beaucoup de gens ont déjà asséné des thèses ou des théories certaines complotistes. On pourrait déjà avoir la décence d'attendre les résultats de l'autopsie de ce jeune homme pour savoir dans quelles conditions il est décédé. On peut également considérer le fait que le lieu où le corps a été retrouvé peut avoir aussi un lien par rapport ou pas à l'intervention de police. Il y a toute une série d'éléments qui fait que il faut rester patient. Il ne faut pas contester ou dénier le pouvoir des autorités judiciaires administratives pour savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'on va avancer vers la vérité dans les semaines qui viennent.
Et concernant le scénario de cette intervention le 21 juin ou le 22 juin au petit matin, les forces de l'ordre ont repoussé les fêtards de sono en sono, de sound system en sound system. N'y a-t-il pas eu un effet de souricière au bout du quai ?
Les faits, je vais juste revenir sur les faits. Il y a une dizaine de sonos, il y en a à peu près 9, si on lit le rapport, qui ont accepté le fait de fermer la musique. Et puis il y en a un qui n'a pas accepté. Ça, ce sont les faits. Alors, si on considère que l'intervention de police, elle est liée au fait qu'il y a un refus d'éteindre la musique, on peut considérer que dans ces cas-là, ça serait excessif. Pour autant, la police dit une chose différente. Elle dit que les gens refusent de fermer la musique, d'éteindre, et qu'ensuite, les organisateurs de ce sound system regroupent des gens qui seraient les auteurs de violences. Et je vous dis encore une fois, je parle au conditionnel, il y a une différence entre une intervention de police pour fermer une musique, où là on pourrait considérer que c'est un peu excessif, puis il y a une différence qui consiste à envisager le fait que la police n'a fait que répondre à des agressions. Après, effectivement, il y a un effet souricière, il va y avoir une responsabilité des organisateurs. Que faisaient des camions sound system au bord de la Loire, au bout d'un quai, sans aucune protection? Ça, c'est une vraie question de sécurité et de responsabilité.
Voilà, puisque vous pointez quelque part la responsabilité de la ville de Nantes, je vous propose d'écouter, commissaire Lebars, l'adjoint communiste à la mairie de Nantes, Aymeric Cesseau, qui pointe, lui, la seule responsabilité de la police. On l'écoute.
Nous ne nous sentons pas responsables de ce qu'il s'est passé pour une raison très simple. Les vidéos sont accablantes. Il y a en 2017 une scène similaire où les forces de l'ordre avaient choisi un repli tactique plutôt que d'engager une action près de ce cours d'eau qui est la Loire. Il y a ces installations depuis 20 ans à Nantes. Donc la question qui est posée, c'est bien celle de l'intervention policière et exclusivement celle de l'intervention policière.
Voilà, commissaire Lebars, y avait-il un autre scénario éventuellement à privilégier ce soir-là pour éviter cette situation ?
Déjà, un autre scénario, contrairement à ce que dit l'adjoint au maire, aurait été de considérer que cet endroit-là est dangereux, et la preuve qu'il l'est, c'est qu'il y a un canot d'une brigade fluviale qui était prévu en cas de chute à l'eau. Il faut aussi rappeler que des gens sont tombés à l'eau pendant la soirée et sans aucun lien avec l'intervention de police. Donc à partir de là, quand on organise un événement public ou qu'on l'autorise ou qu'on sait que ça se passe à cet endroit-là, il y a différents niveaux de responsabilité. Chacun devra assumer le fait de pourquoi, comment on a laissé se faire une fête de la musique au bord d'un fleuve avec 6 ou 7 mètres de marnage, avec tous les dangers que ça comporte. Chacun devra assumer et il faut faire confiance et à la justice et à l'IGA pour qu'on puisse savoir à chaque niveau de responsabilité qui devra rendre des comptes.
D'accord. L'enquête administrative ordonnée par le Premier ministre veut-elle dire que l'IGPN n'est pas allé au bout de la démarche ?
Non, ça veut dire qu'avec l'inspection générale de l'administration, ça va plus loin. L'enquête de l'IGPN, ça enquête sur des policiers susceptibles d'être des auteurs. Avec l'inspection générale de l'administration, on va plus loin. On va dans la préfecture, on va voir au niveau des autorités préfectorales. On élargit l'enquête au niveau des responsabilités administratives pour que chacun puisse donner sa version des faits et qu'on puisse avoir des éléments plus précis.
Merci beaucoup, commissaire David Lebars, donc secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci d'avoir été l'invité du 13h avec nous. Bonne journée. Au chapitre des réactions politiques, cette charge brutale du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui affirme qu'il n'y aura pas de justice rendue dans cette affaire. Réaction encore de l'ONG Amnesty International, qui déplore une dérive dans le maintien de l'ordre et appelle à des stratégies plus respectueuses des droits humains. 488 hectares de forêt et de broussailles parcourus à Générac dans le Gard, une trentaine d'hectares à Montbazin dans l'Hérault. Le risque incendie reste très élevé dans le sud-est de la France. Le feu de Générac a été fixé au petit matin, mais il n'est pas encore totalement éteint. Il a mobilisé près de 470 pompiers et nécessité l'évacuation de près de 200 habitants. Le reportage à Générac de Mélodie Vialet.
Véritable scène de désolation, des paysages presque lunaires. La végétation a été calcinée sur plusieurs hectares. Et puis cette odeur de brûlé tenace qu'on peut sentir à des kilomètres à la ronde. Le capitaine Nicolas Ventosa, des sapeurs-pompiers du Gard.
Il ne reste rien, si ce n'est quelques cendres. On voit que les travaux des collègues ont été efficaces puisque le feu s'est arrêté juste devant la maison et celle-ci a été préservée.
Aucune habitation n'a d'ailleurs été abîmée grâce aux pompiers et leur tâche est loin d'être terminée. Il reste un travail titanesque, minutieux, de fourmi même pour les quelques 350 pompiers toujours mobilisés. Le lieutenant Michael Isnard, des pompiers des Alpes de Haute-Provence.
Vous avez une partie brûlée qui est toute noire et une partie verte qui n'est pas brûlée. Et mouiller le vert pour éviter que des reprises se fassent à ses limites et repartent dans le bois qui est non brûlé.
Un incendie d'une rare violence et même après 35 ans de métier pour le capitaine Alain Mosconi, également des Alpes de Haute-Provence, c'est toujours impressionnant.
C'est jamais le même incendie, on se remet toujours en question, on repart à zéro. Au niveau de la sécurité, au niveau du relief, c'est comme sur les accidents, c'est pareil. On n'a jamais deux qui se ressemblent.
Et les pompiers qui devraient continuer de noyer les braises encore toute la journée, ils espèrent que le vent ne sera pas trop violent.
Voilà, reportage à Générac de Mélodie Vialet de France Bleu, Gard-Lozère. Une fillette de 5 ans a été tuée accidentellement par sa mère hier soir à Saint-Jean-de-Monts en Vendée. Elle était sortie de la voiture pour faire ses besoins alors que la maman effectuait une marche arrière fatale. La fillette a été coincée entre la voiture et le muret d'une maison. L'accord est massif et historique. À Air France KLM, 78% des pilotes SNPL ont donné leur aval au développement de la filiale low cost Transavia. Après des années de dialogue tendu, le résultat est à saluer. Les pilotes SNPL disent oui, un accord qui permet de faire voler plus de 40 avions chez Transavia. Maxime Deps, bonjour.
Bonjour.
Mais le deuxième syndicat de la compagnie, le SPAF, reste opposé à ce projet.
Oui, mais à la direction d'Air France, on parle, vous l'avez dit avant tout, d'un moment historique, d'un vote qui va permettre à la compagnie de regarder l'avenir avec sérénité. Air France et sa filiale Transavia, enfin, vont pouvoir entrer en concurrence directe avec les low-cost qui opèrent sur le territoire français. Car si aujourd'hui des vols partent bien d'Orly essentiellement, demain, des bases vont pouvoir ouvrir ailleurs avec beaucoup plus de possibilités au départ de Bordeaux, Toulouse, Marseille. Pourquoi ? Parce que cet accord fait sauter un verrou important. Transavia dispose aujourd'hui de 38 appareils. Elle pourra en compter bien davantage à l'avenir grâce au feu vert des pilotes qui ont longtemps craint que la low cost ne se développe trop et que tout ça ait des conséquences finalement sur leur rémunération. Et bien les pilotes ont obtenu des garanties. Alors certes, elles ne suffisent pas à tous. Chez Transavia, notamment les syndicats déplorent ne pas avoir été réellement associés aux négociations. Tout, quasiment, s'est passé à l'échelle d'Air France. La compagnie ou la direction a tout de même le sentiment aujourd'hui que la page des grèves à répétition est désormais tournée.
Merci Maxime Deps. C'est un grand pas en avant qui se dessine sur la question des aidants familiaux. Ces héros du quotidien qui assurent la prise en charge d'un proche dépendant. Un Français sur 6 est dans cette situation. Le gouvernement prépare la mise en place d'un congé de proche aidant d'une durée de 3 mois rémunéré. Le plan complet devrait être dévoilé à l'automne. Un grand pas qui demande encore à être précisé, notamment sur le montant de la rémunération, l'ouverture éventuelle du droit à la retraite, selon Olivier Maurice, délégué général du collectif Je t'aide, qui regroupe 22 associations.
Pour le moment, on a un effet d'annonce, mais on n'a pas de précision, si ce n'est des bruits de couloir, sur le montant de cette indemnisation. Idéalement, on aimerait évidemment un maintien de salaire, puisque on sait que les aidants participent à la solidarité nationale et font économiser des fortunes à la sécurité sociale et à la société dans son ensemble. Donc reconnaître les aidants, c'est les reconnaître à leur juste valeur.
Là, vous avez des échos déjà de ce qui pourrait être proposé ?
On entend des bruits de couloir sur des seuils d'indemnisation qui sont évidemment très inférieurs au maintien de salaire. Nous n'en sommes pas surpris. Même si c'est inférieur à ce rêve qu'on aurait d'un maintien de salaire, c'est déjà un pas intéressant pour la reconnaissance des aidants. Les choses bougent et les choses bougent très vite. On a face à nous une population estimée à 11 millions de personnes qui s'occupent régulièrement d'un proche. On a vu sur ces 2 ou 3 dernières années une véritable prise de conscience envers les aidants.
Olivier Maurice avec Véronique Julia. La hausse des prix à la consommation se contracte en juillet à 1,1% sur un an, après 1,2% en juin, freinée notamment par la baisse des prix de l'énergie. Mais les prix alimentaires sont plus dynamiques qu'en juin, détaille l'INSEE dans son estimation provisoire. Une solution européenne a été trouvée pour le débarquement et la prise en charge des migrants bloqués à bord du bateau italien Gregoretti en Sicile. 5 États membres, la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande, ont accepté de prendre en charge les 131 migrants sauvés en mer et bloqués depuis plusieurs jours à bord de ce navire. Et quant au vice-premier ministre italien, Matteo Salvini, il affirme que les migrants seront autorisés à débarquer dans les prochaines heures. Ils sont accueillis en héros, avec des vivas et applaudissements, alors que ce sont des criminels, condamnés en tout cas comme tels, pas à des dizaines d'années de prison. Les cérémonies de bienvenue réservées aux terroristes d'ETA dans le Pays basque espagnol lorsqu'ils regagnent leur commune, après avoir purgé leur peine, suscitent l'indignation d'une grande partie de la population. Plus de 7 ans après l'abandon définitif de la violence, les blessures ouvertes par l'ETA sont encore loin d'être refermées, Mathieu de Taillac.
Il passe, accompagné de ses proches, au milieu d'une haie d'honneur. Applaudissements, feux de Bengale, pancartes de bienvenue. Xavier Ugarte est reçu comme un héros dans sa commune d'Oñate, au Pays basque espagnol. Difficile de comprendre quand on sait que cet homme vient de purger une peine de 22 ans de prison, notamment pour 2 enlèvements et un attentat dans lequel sont morts 2 gardes civils. Le parquet vient d'ouvrir une enquête pour apologie du terrorisme. Les preuves sont rares, les militants se gardant bien de lancer des vivas à l'ETA. Ces cérémonies, que l'on appelle des ongi et tori, bienvenue en basque, sont très habituelles. 130 ont eu lieu depuis 2016. Elles suscitent la condamnation de toutes les forces politiques, à l'exception de la gauche indépendantiste basque. Cette fois-ci, l'affaire est utilisée contre Pedro Sanchez parce que, dans la Navarre voisine, les socialistes bénéficient de l'abstention de cette même gauche indépendantiste. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
En Allemagne, l'ancien patron du groupe Audi, Rupert Stadler, formellement poursuivi pour sa responsabilité dans le scandale des émissions polluantes des moteurs diesel. Le parquet de Munich lui reproche d'avoir contribué, sous couvert de pratiques commerciales chez Volkswagen, à l'homologation de véhicules trop polluants. Un petit coup de pouce qui ne peut faire que du bien. Pour la première fois depuis 10 ans, la Banque centrale des États-Unis s'apprête à réduire son taux directeur. L'annonce est attendue tout à l'heure. Un geste pour doper la croissance américaine qui, malgré un chômage au plus bas, marque quelques signes d'essoufflement. Les explications à Washington de Pierre-Yves Dugas.
La Banque centrale des États-Unis veut préserver la croissance américaine qui dure depuis 10 ans, ce qui est un record. Après 7 ans de taux directeur presque nul, à partir de 2015, la Réserve fédérale avait entamé une série de relèvements de taux, jugeant que la conjoncture américaine était assez solide. Ce cycle de relèvements de taux est sur le point de s'arrêter. Jay Powell, le patron de la Fed et la plupart de ses collègues, jugent que la chute de l'investissement, le recul persistant de l'immobilier, la baisse des exportations fragilisent la croissance, même si le consommateur américain euphorique continue de soutenir la demande. La Fed note que les entreprises dans le monde entier s'alarment des conséquences des hausses de droits de douane décidées par Donald Trump et comme l'inflation est toujours très faible, la Fed pense que ce petit coup de pouce ne peut faire que du bien. Washington, Pierre-Yves Dugas, France Inter.
C'est une belle histoire qui se solde par un pique-nique de remerciements. En janvier dernier, 2 chercheurs de trésors inspectent le sable de Saint-Malo. Et sur la plage du Sillon, ils exhument une chevalière en or. Plutôt que de la mettre dans leur besace, ils se lancent dans des recherches documentées pour retrouver son propriétaire. L'homme qui vit en Allemagne, mais dont la famille a une propriété entre Rennes et Fougères, avait perdu sa bague l'été dernier. Hier, la famille a organisé un pique-nique pour remercier les découvreurs. Benjamin Fontaine était de la fête.
Dans le jardin du château de la Sécardée, l'excitation est à son comble. Cousins, cousines, frères et sœurs sont rassemblés autour des héros du jour.
Nous sommes tous réunis pour un fait extraordinaire.
Et c'est vrai qu'elle est extraordinaire, cette histoire. Retournons 6 mois en arrière. Le 23 janvier, c'est la marée. Étienne, 67 ans, détecteur de métaux en main, marche sur la plage du Sillon à Saint-Malo.
J'ai un très bel écho. J'extrais le sable, bien sûr, avec ma pelle. Et puis à une vingtaine de centimètres, un peu moins peut-être, je trouve cette fameuse bague en or.
Une découverte exceptionnelle, dit Étienne. Il en parle aussitôt à son ami Jean-Paul, passionné de généalogie. Le retraité lance ses recherches à partir des armoiries gravées sur le bijou. Et au mois d'avril, ses travaux le mènent à Mézières-sur-Couesnon.
Grâce en fait à la propriétaire là, du château, donc, on a réussi à remonter jusqu'au bijoutier qui a fabriqué cette bague dans les années 60.
Les membres de la famille sont alertés et très vite, Jean-Charles, le propriétaire de la bague qui vit à Hambourg, est prévenu. Sa chevalière a été retrouvée.
C'est incroyable, hein. C'est une grosse chance. C'est vrai que j'avais à ce moment-là, j'avais dit bon, on la retrouvera jamais.
Jean-Charles n'est pas du genre à s'étaler sur ses sentiments, mais il est ému, ça se sent. Peut-être aussi parce que la bague a été retrouvée 2 jours seulement après le décès de son père, C'est lui qui lui avait confié la chevalière.
Voilà, reportage à Saint-Malo de Benjamin Fontaine de France Bleu Armorique.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Humide au nord, ensoleillé au sud, Sébastien Lias.
Après-midi ensoleillé sur la majeure partie du pays, les quelques nuages encore présents tendent à s'effacer et le ciel est même dégagé des Pays de la Loire, aux Vosges et au Jura jusqu'au pourtour méditerranéen et au piémont des Pyrénées. Dans le sud-ouest, le ciel se voile légèrement. Ce sont les prémices d'une dégradation pluvieuse et orageuse qui est attendue dès la fin de nuit prochaine. Le ciel est un peu plus variable entre la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien jusqu'en Lorraine. Les éclaircies sont généralement belles mais quelques averses tardent à s'évacuer, bordant notamment les frontières du Nord. Le risque d'averse est un peu plus marqué en Bretagne et sur le Cotentin, avec un ciel souvent nuageux. Les températures de cet après-midi sont voisines des normales de saison. 21 degrés au Havre, 22 degrés à Lille, Saint-Brieuc et La Rochelle, 24 degrés à Metz et Clermont-Ferrand. Il fait 25 degrés à Paris et à Mulhouse, 26 degrés à Lyon et à Agen. Autour de la Méditerranée, les maximales sont plus chaudes, 30 degrés à Marseille et Perpignan et 33 degrés à Calvi et Toulon.